Nombreux sont les observateurs qui ont relevé ce cas de paradoxal, la situation créée par le récent triomphe de la démocratie. Jamais elle n'a été aussi solidement installée, jamais simultanément, elle n'a paru aussi menacée par le vide et l'impotence. Son empire s'étend sans plus de rencontrer d'opposition, ses règles et ses procédures prévalent avec une rigueur sans cesse accrue. Son esprit entre dans les rapports sociaux et modèle l'identité des êtres avec toujours plus d'ampleur et de profondeur. Et pourtant, un mal mystérieux ronge ce progrès euphorique. Quelque chose comme une anémie galopante dessèche ces formes qui s'élèvent à l'irréprochable. L'indéniable avancée dans la réalité se solde par une non moins incontestable perte d'effectivité. La puissance réelle déserte la machinerie à mesure que ses rouages se perfectionnent. J'ai proposé l'expression de la démocratie contre elle-même pour rendre compte de cet obscur écartèlement. La formule cherche à pointer l'originalité de la situation par rapport au cas de figure classique des contradictions de la liberté. La fatale liberté laissée aux ennemis de la liberté de la détruire, Hitler, arrivant au pouvoir par la voie légale en 1933 pour abolir aussitôt la légalité. Nous sommes aux antipodes ici d'une telle opposition frontale et déclarée. L'antagonisme dont il s'agit est tout interne et il s'ignore. Il procède des valeurs les plus certaines de la démocratie et il opère en secret. C'est le zèle des amis de la liberté qui se révèle autodestructeur sans qu'un instant l'existence de la liberté ne soit remise en question. L'affaiblissement marche avec l'approfondissement. La démocratie n'a plus d'ennemis. Et c'est à partir de cette disparition qu'il faut approcher ce trouble étrange qui la consume du dedans. Depuis deux siècles qu'elle chemine, elle n'avait cessé d'être en butte à des adversaires farouches sur ses deux flancs, arc-boutés les uns sur l'autorité de la tradition et de la nation, et juchés les autres sur les promesses de la Révolution. Une adversité qui, loin de reculer au fur et à mesure de son enracinement, y avait continuellement trouvé de quoi se renouveler et s'amplifier. Ces efforts auront culminé au XXe siècle au point d'avoir pu paraître un moment bien près de l'emporter. Qui, en 1939, en Europe, eût parié sur les chances des pitoyables régimes parlementaires et bourgeois? Ces formidables armées de la servitude ne sont plus qu'un souvenir. Nous avons vu s'évanouir en peu d'années tant les ombres subsistantes des prophètes du passé que la magie, elle bien vivante, des sorciers de l'avenir. Leurs causes ont brutalement cessé d'être soutenables. Il n'y a plus eu personne, tout d'un coup, pour rêver du retour de l'ordre organique et hiérarchique ou pour croire au miraculeux avènement de la liberté substantielle grâce au sacrifice des égoïstes indépendances individuelles. Entre 1974, quand la révolution des œillets abat à Lisbonne l'un des derniers vestiges de la réaction triomphante de l'entre-deux-guerres, et 1989, quand s'ouvre à Berlin une brèche décisive dans la citadelle communiste, la liberté sans restriction ni dépassement s'impose comme l'unique politique concevable. La démocratie devient l'horizon indépassable de notre temps. C'est du sein de cette conversion générale qu'a surgi une adversité que l'on n'attendait pas, une adversité intime, sans porteur déclaré ni visage identifiable, logée dans le fonctionnement même de ce régime dorénavant incontesté. La démocratie a changé autant qu'elle a gagné. Elle l'a emporté jusque dans l'esprit de ses contradicteurs, les plus rebelles, moyennant une métamorphose de sa compréhension d'elle-même qui l'a amenée à son principe originel. Elle a retrouvé le sens de son fondement en droit, l'égale liberté de ses membres, et elle s'est remise à son école. C'est en renouant de la sorte avec les droits de l'homme qu'elle s'est vouée à la contradiction insaisissable qui la travaille du dedans. En même temps que cette réconciliation unanimiste lui a permis d'absorber ses anciens adversaires dans l'évidence communielle d'une norme avouée de tous, elle l'a disjointe d'elle-même, elle l'a installée dans le partage entre ses bases et ses buts, entre son idée et sa réalité, entre ce qu'elle veut être et ce qui lui vaut d'exister. Le foyer du trouble est dans le ressort de la victoire, c'est ce qui rend la situation si confuse. Ce n'est nulle part ailleurs que dans le retour aux sources qui a propulsé la démocratie au pinacle qu'il faut chercher les racines du malaise qui l'étreint. Ce qu'elle y gagne en assurance de ses bases, elle le paie en incertitude sur son pouvoir. La logique de ses fondements tend à priver son exercice de subsistance. La consécration des droits de chacun débouche sur la dépossession de tous. Un pas plus loin, elle en arrive sur sa lancée à se retourner contre les communautés historiques où il lui revient de s'incarner. L'universalité des droits ne s'accommode pas de la particularité des cadres politiques dans lesquels elle se trouve à s'appliquer. Par où elle est conduite à saper ses propres conditions de concrétisation. Quelle démesure égare cette démocratie poussée à se couper d'abord les bras avant de s'amputer les jambes afin de mieux s'accomplir. Ne l'aurait-elle emporté que pour se consumer sur place en immolant son enveloppe charnelle à son âme idéale? L'inquiétude est diffuse parce que la contradiction est cachée et qu'elle habite chaque acteur. Elle est obsédante, pourtant, parce que chacun sent, de la même manière obscure, que le cap franchi est irréversible. Il n'y a plus d'échappatoire. Nous n'avons plus d'autre avenir imaginable que celui qui nous est assigné par cette réappropriation des fondements de la démocratie. Il n'est pas absurde de déclarer l'histoire finie en ce sens. On ne voit pas, en effet, quels autres principes nous pourrions avancer, avantageusement substituer, demain, à ceux qui définissent pour nous, désormais, toute politique acceptable et, plus largement encore, toute organisation collective souhaitable. Le XXe siècle a été dominé, durant la plus grande partie de son cours, par l'image de la différence du futur. Tous vivaient dans l'attente d'un dépassement plus ou moins inéluctable de l'individualisme bourgeois par un holisme ou un collectivisme d'un genre quelconque, traditionnel et autoritaire pour les uns, socialiste et égalitaire pour les autres. Il y en avait beaucoup pour l'espérer, un nombre plus grand encore pour le redouter, mais tous se retrouvaient pour penser et pour agir au quotidien sur cet horizon d'un avenir appelé à être substantiellement autre. La perspective s'est renversée. Il n'y a plus que du même devant nous. Le sacre de l'individualité que nous venons de connaître nous interdit de concevoir d'autres principes de l'existence personnelle et collective que ceux que nous pratiquons. Cela n'empêche aucunement d'envisager d'éventuelles régressions qui éloigneraient la réalité des sociétés de leur fondement en droit, à l'opposé de la convergence dont nous avons la chance de bénéficier. Mais cela nous ferme la possibilité d'imaginer le surgissement d'une norme différente pour les régir. À nous supposer retomber sous l'oppression, nous n'aurions que cet idéal pour guider notre libération. Si loin que nous nous efforcions de porter le regard, nous nous découvrons bel et bien prisonniers en pensée de ce qui s'impose à nous sous la figure d'une fin. À ceci près, donc, qui n'est pas mince, que cette histoire achevée se révèle grande ouverte sur une incertitude majeure. Non seulement ces principes que nous ne pouvons pas comprendre, autrement que comme définitifs, ne livrent avec eux aucune garantie quant à leur traduction pratique, mais ils se montrent susceptibles, dans le moment où ils s'emparent du réel, d'œuvrer à leur propre désincarnation. Nous n'avons touché quelque chose comme un terme de l'histoire, n'en déplaise au Mann de Hegel, que pour y trouver non la maîtrise et la paix d'une pleine possession de nous-mêmes, mais l'inconnu d'une soustraction à nous-mêmes, d'autant plus angoissante qu'elle sourd de ce que nous sommes obligés de vouloir. Sommes-nous vraiment condamnés, sans espoir de retour, à l'agitation immobile et à l'agonie perpétuelle des morts vivants de la post-histoire? N'avons-nous plus devant nous, pour toute perspective, que la déréliction festive des derniers hommes, célébrant leur impuissance à se gouverner avec leur arrivée au port de la certitude? En bon hégélianisme, cette présence du négatif, même logée dans la coïncidence théorique de l'esprit avec lui-même, cette lutte intestine du rationnel et du réel, ce travail de la contradiction au sein du savoir absolu, ne peuvent que faire douter de la stabilité de ce stade supposément ultime. Nous sommes invinciblement portés à penser qu'il recèle une réserve de mouvement. De là le scepticisme ou la répugnance que soulève l'idée de fin de l'histoire, en dépit des raisons déterminantes qui l'accréditent. Elle est aussi impitoyable qu'elle est incontournable. Il faut qu'il y ait de l'histoire après la fin de l'histoire, puisque cette détermination prétendue se présente sous forme d'aporie à surmonter ou de dilemme à résoudre. On verra en effet que non seulement il y a encore de l'histoire, mais que cette fin est à tenir en vérité pour un commencement. Le commencement d'une autre manière d'être de l'histoire, le commencement d'une autre façon pour nous de l'habiter et de la faire. Ce qui s'est achevé, c'est le passage d'un mode d'historicité à un autre, vers lequel nous étions en chemin depuis 2 siècles. Ces principes définitifs ne définissent rien d'autre que les conditions de base d'un devenir qui se sait pour ce qu'il est et qu'il faut vouloir. Ils ne mènent vers aucun dénouement, ils ne nous assurent d'aucune entrée en possession de nous-mêmes. Ils nous promettent, au contraire, un effort indéfini pour nous faire et pour nous retrouver dans l'épreuve permanente de l'échapper à soi et de la reconquête de soi qu'implique l'action collective. C'est le fond de la question de la démocratie, telle qu'elle se repose à nous de l'intérieur de son triomphe. Elle se confond avec l'apprentissage de ce nouvel élément au sein duquel nous allons devoir vivre. D'une crise de croissance à l'autre. C'est cette fin qui n'en est pas une et la déchirure du présent qui s'élargit derrière elle que la mise en perspective proposée par ces volumes voudrait éclairer. Elle obéit au dessein de comprendre cette mise en crise de la démocratie par son avancée même. Elle est conçue pour permettre de scruter ce qu'il peut advenir de cette décomposition inscrite dans la consécration. Elle replace, pour ce faire, le moment paradoxal où nous sommes dans une trajectoire de longue durée du fait démocratique. Le recul qu'elle permet de prendre ne fournit pas seulement un moyen efficace de dissiper les obscurités du présent, il représente en outre et surtout le seul instrument sur lequel nous puissions compter pour sonder les ténèbres de l'avenir avec quelque plausibilité. Les études réunies dans la démocratie contre elle-même accompagnaient la phase d'expansion victorieuse du fait démocratique dans les années 80-90. Elles s'employaient à en déchiffrer le mouvement sous différents aspects. Elles analysaient les dilemmes inédits qui en résultent au fur et à mesure qu'ils se déclarent. La religion dans la démocratie avait par ailleurs effectué une première tentative pour situer cette métamorphose dans une perspective historique. À partir du révélateur constitué par le cas français, je m'étais attaché à mettre en évidence le lien des transformations de la chose publique amenées par cette vague de démocratisation avec le processus de sortie de la religion. C'est à l'étape marquante franchie par ce dernier au cours des 3 dernières décennies du XXe siècle que je m'étais efforcé de montrer qu'il faut rattacher les changements spectaculaires dans la croyance et dans l'articulation entre le religieux et le politique dont nous avons été témoins. Les changements en profondeur intervenus dans les rapports entre l'État et la société civile en sont la suite, de même que les problèmes inédits soulevés par le fonctionnement de la démocratie des identités. On systématise ici les résultats de ces travaux d'approche en élargissant l'angle de vue et en partant de beaucoup plus loin encore. C'est l'ensemble du devenir moderne qu'il faut prendre en considération pour avoir l'exacte mesure des contradictions où nous nous enfonçons et pour acquérir une notion un tant soit peu motivée de leurs issues possibles. La thèse principale qui sera défendue dans ces pages est que cette adversité intime qui tenaille la démocratie et qui l'écarte d'elle-même est à comprendre comme une crise de croissance. Elle n'est provoquée par rien d'autre que par l'approfondissement de son essence et le développement de ses différentes dimensions. D'où les discordes sourdes qu'elle connaît, d'où le problème central de composition qui la hante. C'est que la démocratie des modernes est un phénomène tout sauf simple. Elle est loin de se réduire à l'égalité des conditions dont Tocqueville nous a appris à déchiffrer la dynamique et que la situation actuelle nous pousse à privilégier dans ses pas. Elle est l'unité d'une multiplicité. La vérité est qu'elle constitue un régime mixte, dans un sens très différent de ce que les anciens mettaient sous ce nom, mais non sans rapport. Si les composantes ont changé, la validité de la formule demeure. Ce n'est plus, et pour cause, du mélange de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie qu'il s'agit, mais c'est toujours d'un mélange. La démocratie des modernes associe 3 dimensions qui traduisent et concrétisent, chacune dans leur ordre, la propriété dernière de qui la caractérise, à savoir l'autonomie. Elle est faite séparément et indissolublement de politique, de droit et d'histoire. Elle articule ensemble une forme de communauté politique, l'État-nation, pour faire court, un principe de légitimité qui est en même temps une règle de composition juridique, les droits de l'homme, en bref, et une organisation temporelle de l'action collective, soit ce devenir délibérément producteur que nous appelons histoire. En donnant au terme une acception inédite par rapport à celle qu'il revêtait avant le 19e siècle. Ce sont là les trois vecteurs par lesquels prend corps l'existence d'une société où la volonté des hommes, individuellement attestée et manifestée, prend la relève de l'assujettissement au Dieu, matérialisé dans un ordre global qui précède et domine quelque volonté singulière que ce soit. Parce que c'est dans cet arrachement méthodique à l'étreinte sacrale que consiste proprement la démocratie des modernes. Elle est fille de la sortie de la religion. Elle y a son processus générateur. C'est cette source qui la singularise dans son essence et dans ses expressions par rapport à ses précédents antiques. Elle est habitée par un projet métaphysique. Elle correspond à la redéfinition de l'établissement humain social sous la totalité de ses aspects en fonction de l'exclusive obéissance à soi-même. C'est ce même renversement systématique de l'ancienne économie de la dépendance envers le divin qui est à l'origine du problème structurel de sa formule. Car l'articulation des trois vecteurs par lesquels il passe ne va pas aucunement de soi. Ils sont apparus successivement, par vagues, depuis le XVIe siècle. Ils tendent à fonctionner isolément. Chacun se veut porteur d'une définition complète et suffisante de la condition collective. Aussi, le mariage qui a fini par s'imposer entre eux est-il par nature instable et difficultueux. Il alterne des phases d'harmonisation et des phases de tension. Tantôt la solidarité des éléments prévaut, tantôt leur indépendance relative prend le dessus. Nous nous trouvons précisément dans un de ces moments où la discorde se ravive, pour cause d'affermissement inégal des trois dimensions. Il s'est produit une relance du processus générateur au cours du dernier tiers du XXe siècle. La sortie de la religion a franchi une étape supplémentaire de grande ampleur, une étape qu'il y a de bonnes raisons de tenir pour ultime, à de certains égards, puisqu'elle a détruit les derniers vestiges de l'assujettissement sacral. Il en est résulté un déploiement inédit de chacun des axes effectuant de l'autonomisation. Nous sommes emportés par un triple approfondissement de la dimension historique, de la dimension politique et de la dimension juridique qui a bouleversé l'équilibre qui s'était tant bien que mal établi entre leurs expressions antérieures. C'est ce cas de plus hors de la dépendance religieuse, ce pas de plus hors de la dépendance religieuse qui a déterminé le ralliement universel à la liberté démocratique. Il a retiré au parti de l'hétéronomie les derniers appuis qu'il pouvait conserver dans la vie sociale, du côté des liens avec la tradition ou des obligations d'appartenance. En quoi, ce faisant, il n'a pas moins privé de base la cause de l'accomplissement de l'histoire sur l'autre bord. Elle s'étayait secrètement, en effet, sur un substrat religieux. Elle tirait sa plausibilité de figure de l'union de la collectivité avec elle-même, issue de l'âge des dieux. Les ennemis étaient complices, en réalité. Aussi, réactions et révolutions se sont-elles évanouies de conserve. D'où la consécration sans reste de l'autonomie qui a renvoyé dans l'impensable toute alternative à la libre disposition des personnes et des communautés. D'où le triomphe sans partage du fondamentalisme démocratique. Il représente l'aboutissement d'un long parcours. Il y a derrière 5 siècles de lente construction d'un monde marchant au rebours de ce qui fut depuis toujours la règle constitutive des communautés humaines, la soumission à plus haut qu'elle. Nous voici cette fois pour de bon face à nous-mêmes, dégagés de quelque reliquat que ce soit de ce passé de dépossession. Sauf que l'apothéose du principe ne nous livre pas les instruments de sa mise en œuvre, elle nous les dérobe, au contraire. Ce pas terminal vers l'autonomie métaphysique s'est manifesté donc par l'évidence renouvelée de la liberté démocratique sous son double aspect d'indépendance privée et de participation publique, de protection de la sphère personnelle et d'ouverture de la sphère des choix collectifs. Il s'est traduit plus profondément par la ressaisie du principe où un monde autonome a sa justification en droit, le principe de l'individualité. Un monde autonome est un monde qui ne peut se concevoir que comme constitué d'individus, en pratique et en théorie. De là le double mouvement si spectaculaire qui a occupé le premier plan au cours des dernières décennies. D'un côté, une gigantesque vague d'individualisation concrète qui nous a fait retrouver le sens de la dynamique de l'égalité des conditions, mais aussi de l'autre côté, une redécouverte non moins significative et encore plus lourde de conséquences de la logique des droits de l'homme. Nous ne sommes pas seulement dans un moment tocquevillien, nous sommes aussi dans un moment de résurgence du droit naturel où l'impératif fondationnel retrouve une primauté qu'il n'avait plus eue depuis le XVIIIe siècle. Les manifestations sociologiques du sentiment de similitude entre les êtres s'ajoutent aux résultats de la redéfinition juridique des liens entre les êtres selon leur égale liberté native. Mais cette hégémonie reconquise par la dimension du droit, à la mesure du plein accès de notre monde à l'autonomie, si elle procure à la démocratie la certitude d'elle-même, ne lui donne pas les moyens d'une prise effective sur elle-même à la hauteur de ses promesses théoriques. À l'opposé, en même temps qu'elle lui permet de s'assurer de ses fondements et de se savoir dans toutes ses parties, elle la détourne d'un autogouvernement efficace. Elle l'enferme dans une sphère idéale, où elle jouit béatement de la coïncidence avec son principe, tout en la déconnectant des autres dimensions où se joue la concrétisation de l'autonomie. Car pendant que le droit se trouvait catapulté de la sorte sur le devant de la scène, la forme politique et l'action historique n'ont pas disparu, ni ne sont restées immobiles. Elles aussi ont été mises en mouvement et ont connu des développements de première grandeur. Avec cette différence remarquable par rapport à l'élévation des droits individuels au pinacle, que leur approfondissement les a effacés de la conscience collective. Depuis un bon siècle, depuis les années 1870-1880, la dimension de l'histoire obsédait les esprits. Elle dictait sa loi au quotidien. Il fallait penser en fonction de l'avenir qui polarisait les espérances et définissait les devoirs. Conduire le changement social faisait figure de suprême impératif. Étrangement, l'accélération de l'histoire, ou plutôt la démultiplication de l'historicité, se sont soldées par la disparition du souci du futur. Plus d'avenir susceptible, suspendu au-dessus des têtes pour mobiliser ou obliger, plus de nécessité de se déterminer en regard de lui. Plus de contraintes sensibles du devenir, on peut faire comme s'il n'existait pas, alors qu'il nous entraîne comme jamais. Parallèlement, de même, le XXe siècle aura été le siècle des États. Pour le pire, la guerre, les totalitarismes, et pour le meilleur, l'organisation des sociétés, la construction de systèmes protecteurs tels que jamais une civilisation n'aura montré pareille sollicitude pour les plus humbles et les plus fragiles de ses membres. L'appartenance politique s'imposait comme la clé du destin commun. Elle ne fait plus figure que comme carcan obsolète dont le rôle est épuisé et dont il s'agit de se délivrer dans les meilleurs délais. On n'en discerne plus que les pesanteurs archaïques. La fonction qu'elle remplit est devenue invisible. Pourtant, sans cette matrice inclusive, rien du reste ne serait possible, ni la mobilité d'économie, ni la splendide autarcie des individus. L'impuissance qui ronge notre démocratie en majesté n'a pas d'autre origine. Elle règne en idée tout en étant sans prise sur l'histoire que ses acteurs fabriquent et en refusant d'assumer le cadre qui lui prête vie. Aussi subit-elle en permanence des contraintes de sa substructure qu'elle ne comprend pas et se trouve-t-elle constamment débordée par un devenir dont elle ne veut pas connaître. Elle est en proie à un problème de composition. La dimension du droit, telle qu'elle domine, ne permet pas de se saisir de ces autres dimensions avec lesquelles elle coexiste nécessairement. C'est en cela que cette démocratie satisfaite ne se gouverne pas. Sa pacification dissimule une discorde intestine bien plus grave que les disputes d'hier sur son principe. Une authentique possession de soi suppose la maîtrise simultanée de ces trois dimensions, de la norme que l'on se donne, certes, mais aussi du cadre où on s'inscrit et du devenir que l'on secrète. Et elle joue ici les unes indépendamment des autres, si ce n'est les unes contre les autres. L'articulation synthétique entre le politique, le juridique et l'historique est à refaire. Elle est la condition d'une démocratie retrouvée, qui serait vraiment la démocratie supérieure que nous croyons détenir, mais dont chaque jour montre un peu plus que nous l'avons manqué. Cette situation d'une démocratie qui se dérobe et s'éloigne au moment où l'on pense la saisir n'est pas la première du genre. Elle a un grand précédent sur lequel nous avons la chance de pouvoir nous appuyer. Elle renvoie à cette période de charnière déjà évoquée de la fin du 19e siècle et du début du 20e, quand se forment les démocraties libérales telles que nous les connaissons. Là aussi, on assiste à une vaste et puissante poussée de la légitimité démocratique. C'est l'époque même où elle s'impose irréversiblement sous les traits du suffrage universel dont la revendication constitue alors le fer de lance et son fer de lance et son emblème tangible. Les oligarchies représentatives sont irrésistiblement amenées à s'ouvrir à la loi du nombre et à la voix des masses. En 1884, signe des temps, la liberté des Anglais, modèle de tout un siècle, s'affranchit de ses limites traditionnelles, déjà repoussées à deux reprises, il est vrai, en 1832 et 1867, pour rejoindre, ou presque, la norme de la souveraineté du peuple. Du peuple des individus et non plus du peuple encore. Le libéralisme démocratisé de la monarchie britannique converge avec la démocratie républicaine à l'américaine et à la française. Ensemble, ils vont former les trois creusets exemplaires où s'amorce la synthèse, faussement simple, de la liberté libérale et de la souveraineté démocratique. Les vieilles autocraties sont gagnées par le mouvement et contraintes d'accorder une place à la représentation des peuples, une place qui ne va cesser de s'élargir. En 1890, la levée des lois antisocialistes dans l'Empire allemand, qui va faire entendre toujours plus fortement la voix des masses ouvrières au Reichstag, en face du souverain de droit divin, coïncide avec les premières élections parlementaires au Japon. En 1906, l'empereur François-Joseph accorde le suffrage universel en Autriche. L'année précédente, l'empire des tsars lui-même avait dû se résoudre à concéder une douma à la pression de ses sujets et aux requêtes de l'esprit du temps. Devant l'ampleur de cette vague, tous les bons observateurs s'accordent autour de 1900 pour reconnaître le caractère invincible des progrès du droit de citoyenneté. Il ne fait pas de doute pour eux que le XXe siècle sera celui de la démocratie. Mais là aussi, au milieu de cette gigantesque avancée dont il est manifeste que rien ne saura l'arrêter, la perplexité s'insinue, l'anxiété s'installe. La démocratie sera, mais quelle sera-t-elle? Car cette démocratie sans restriction ne paraît s'implanter que pour décevoir les attentes mises en elle. La frustration des masses n'a d'égal que l'étendue de leur conquête. Le régime parlementaire supposé fournir son bras armé à la souveraineté des individus se révèle dramatiquement insuffisant à la tâche. Il est désordonné, instable, sans direction suivie. Il est en un mot l'incarnation de l'impuissance, et cela au moment où se lèvent dans la société les seigneurs géants d'une nouvelle féodalité financière et industrielle. Quand la souveraineté des députés n'est pas dérisoire, c'est pour tourner à son propre profit et se soustraire au contrôle des électeurs. Comment serait-il possible, au demeurant, de dégager et de faire prévaloir une volonté générale au sein d'une société où les intérêts particuliers s'entrechoquent dans tous les sens et où la lutte des classes devient le centre de la vie publique? Ce n'est pas seulement que la démocratie est dépourvue d'un outil de gouvernement efficace, c'est qu'en accordant la liberté aux individus, elle libère un chaos social impossible à gouverner. Aussi, les progrès de la démocratie vont-ils de pair, durant cette phase d'incubation des années 1880-1914, avec le développement d'une contestation radicale. Plus avance cette souveraineté sans souverain, plus s'affirme en rupture avec elle des projets de conquête de ce pouvoir qu'elle ne fait miroiter que pour en interdire l'exercice. Le parti de la réaction acquiert dans ce contexte une nouvelle jeunesse à l'enseigne de la nation. Il abandonne ses rêves de restauration sacrale pour se convertir aux principes modernes. Ce sont les hommes qui font leur histoire et qui veulent leur pouvoir. Mais la découverte de la nation lui permet de loger sa nostalgie de l'ordre hétéronome à l'intérieur de cette reddition inconsciente aux valeurs de l'autonomie. Il s'agit de restituer sa cohésion organique à cette société d'individus éparpillés, d'intérêts discordants, de classes en guerre, et cela ne peut se faire qu'en rétablissant la suprématie d'une autorité indiscutée et les liens d'une hiérarchie omniprésente. Les clés du pouvoir que la démocratie est vouée à chercher, sans le trouver, résident dans les règles immémoriales de l'union des communautés. À l'autre extrémité du spectre, le parti de la Révolution gagne ses lettres de noblesse définitives dans la bataille sociale en organisant le peuple au travail. Son diagnostic emporte la conviction d'innombrables adeptes, bien au-delà du camp des prolétaires. l'impuissance des gouvernements et le désordre incontrôlable des sociétés admettent une seule et même cause, en dernier ressort, la propriété privée des moyens de production. Seule sa neutralisation, par conséquent, pourra donner la substance au pouvoir collectif. Ce n'est que sur le socle de la propriété collective que pourra s'édifier un autogouvernement digne de ce nom, parce qu'il sera le gouvernement de la vie matérielle en même temps qu'un gouvernement capable d'accorder sa juste rétribution à chacun. L'installation de la démocratie nourrit ainsi le dessein de son renversement ou de son dépassement. Et le travail de ces contradictions, le déploiement de ces oppositions totales, ne contribue pas peu, en retour, à alimenter le désarroi devant un monde immaîtrisable dont ses rejets sont sortis. Le refus justifie le refus dans une spirale sans fin des tensions. De là les saisissants contrastes de la belle époque. Jamais la foi du charbonnier dans le progrès qui triomphe n'aura régné avec une telle quiétude satisfaite. Jamais la radicalité subversive n'aura recruté de soldats si résolus. Le bonheur des uns contre l'horreur des autres. La certitude tranquille quant à la marche de l'histoire chez la plupart, mais chez beaucoup, néanmoins, le vertige devant l'abîme qui s'ouvre et l'absolue volonté d'en briser le cours chez quelques-uns. Nul ne peut dire ce qu'il serait advenu de ces tensions sans le cataclysme qui se déclenche en août 1914, né lui-même d'un indéchiffrable mélange d'aveuglement optimiste sur la tournure d'un tel conflit et de fascination autodestructrice pour l'apocalypse. Mais ce qui est sûr, c'est que la pluie de sang qui balaie l'Europe va sceller pour longtemps la condamnation de l'hébétude bourgeoise. Elle va ouvrir la porte toute grande à ses aspirations au pouvoir total qui se développaient dans les marges du cheminement laborieux du droit des peuples. L'initiative passe au refus totalitaire. La suite du siècle sera dominée par la recherche d'une alternative à l'impuissance de la liberté. Et pourtant, à l'arrivée, ce sont ces piètres régimes débordés par leurs tâches qui vont se révéler les mieux capables de répondre aux besoins de maîtrise qu'ils avaient fait naître. Ils vont parvenir à se réformer, à se hisser à tâtons et dans la douleur à la hauteur de la mission exigée d'eux. Exténués par la Grande Guerre, ébranlés par la crise de 1929, au bord de l'abîme en 1939, ils vont réussir à trouver les voies de stabilisation en profondeur au lendemain de la victoire de 1945. Ils vont savoir faire ces divisions qui paraissent irrémédiablement interdire à la démocratie de se gouverner en 1900, autant de moyens de gouvernement. À la faveur d'une conjoncture faste de 30 années, ils vont obtenir de concilier le contrôle du processus politique avec la conduite de la prospérité et le partage protecteur de ses fruits. Ainsi va-t-il devenir petit à petit flagrant que c'est dans le cadre des régimes libéraux, et là seulement, qu'est susceptible de prendre corps cette capacité de se concevoir et de se vouloir que les pouvoirs totalitaires, en dépit de leur emprise sans limite, échouent lamentablement à produire. L'inhumanité de leurs moyens est deux fois intolérable, puisqu'elle est pour rien et qu'au lieu de mener à la disposition de la collectivité par elle-même, fût-ce au prix du sacrifice de ses membres particuliers, elle débouche sur un partage entre gouvernants et gouvernés pire que celui qu'il s'agissait de surmonter, et sur une ignorance dysfonctionnelle généralisée de la base par le sommet. L'oppression n'y est au service que de l'imposture. Il n'y a que la tyrannie de Total. Quant à la maîtrise du destin commun, elle est nulle. La leçon de la métamorphose des démocraties libérales, en regard, c'est que la puissance de se vouloir n'a d'effectivité qu'associée à sa liberté de se faire et limitée par elle. La leçon porte. Elle fait éclater l'énorme mensonge des despotismes en tout genre qui avait fait rêver le siècle d'être le siècle du pouvoir de l'humanité sur elle-même. C'est le sens de la vague de démocratisation qui déferle à partir de 1974 et qui va dissiper en 15 ans les créatures de ce cauchemar éveillé. Politique, droit, histoire, conjonction et disjonction. Mais la vague ne s'est pas contentée de détruire les édifices chimériques du pouvoir total. Elle nous a emportés bien au-delà. Elle s'en est prise aux principes du pouvoir en général et partout. Elle a universellement sapé les bases de l'autorité du collectif au nom de la liberté. Elle n'a pas seulement imposé la norme de la démocratie libérale dans les têtes, elle en a changé les orientations et les aspirations de l'intérieur. Elle a fait passer au premier plan l'exercice des droits individuels, jusqu'au point de confondre l'idée de démocratie avec lui et de faire oublier l'exigence de maîtrise collective qu'elle comporte. De telle sorte que nous nous retrouvons pour finir dans une situation analogue à celle dont nous étions partis voici un siècle. Nous redécouvrons les dilemmes de nos devanciers. Nous voyons le sentiment de dépossession progresser du même pas que les indépendances privées. Comme autour de 1900, nous sommes confrontés au divorce de la puissance et de la liberté. Avec une différence cruciale toutefois, c'est que la reconquête de ce pouvoir qui s'enfuit ne mobilise plus personne, sinon de façon ponctuelle et marginale. Il s'efface sans susciter de tentatives désespérées de réappropriation. On ne voit pas d'imprécateurs se lever pour prêcher la rupture avec le désordre établi. On ne voit se développer aucune recherche fiévreuse d'une alternative à la dispersion anomique du présent, que ce soit à l'enseigne de la cohérence autoritaire des sociétés du passé ou à l'enseigne de l'unification émancipatrice de la société de l'avenir. Il est clair, comparé aux angoisses de 1900, que la sécession des individus, la dissociation des activités, l'antagonisme des intérêts, le conflit des convictions ne sont plus perçus comme un problème. Aussi n'appelle-t-il pas davantage de solutions sous forme d'une restauration ou d'une instauration capable de rendre à la communauté la maîtrise de son destin. Mieux, le discours critique, qui n'a aucunement disparu pour autant, qui s'est répandu et banalisé, au contraire, au point de devenir pour la collectivité une manière commune de traiter d'elle-même, pèse dans le sens de l'individualisation des êtres et de la singularisation des groupes. Bien loin de la ressaisie du tout qui constituait son horizon de jadis, il s'est fait le chantre de l'émancipation des partis. Si l'on appelle à l'intervention du pouvoir, c'est en dénonçant l'abus principiel de son autorité. Il refuse ses moyens en réclamant ses effets, par une contradiction révélatrice de la situation où nous sommes. Nous souffrons d'un mal que nous ne sommes pas en mesure de nous représenter et qui ne nous inspire aucune tentation, spontanément, que de nous y enfoncer. Ce qui donne l'indicible malaise qui flotte dans l'air du temps. La nature du problème qui se posait à eux ne faisait guère de doute pour un grand nombre de nos ancêtres de 1900, de 1920 ou de 1930. Ils tendaient à amplifier le caractère dramatique. Ils étaient portés aux remèdes hyperboliques, à la radicalité et à l'activisme. Leurs descendants contemporains sont profondément insatisfaits, violemment frustrés même, par la manière dont leur monde est conduit et par ses conducteurs. Et, en même temps, ils ont la plus grande peine à identifier ce qui leur fait défaut. Ils n'aperçoivent de salut que dans la fuite en avant. D'où le climat de dépression collective, de passivité protestataire et de fuite civique qui tente à s'installer. Les moyens de nous figurer la soustraction qui nous atteint nous manquent parce que nous n'avons plus de figure consistante du collectif pour leur servir d'appui. Quelque chose comme une possession de soi ne nous est plus concevable qu'à partir de et sous l'angle de l'individu. La perception de l'ensemble s'est évanouie et a fortiori la perspective d'une prise sur lui. Le trouble est sans nom puisque l'entité qu'il affecte est sans contour ni visage. Si, par conséquent, le problème est structurellement comparable à un siècle de distance, il est capital d'observer simultanément qu'il se présente sous un signe inverse. Nous ne sommes pas embarqués dans un éternel retour du même, autrement dit. Nous n'allons pas recommencer un cycle semblable. Nous ne sommes pas menacés, en particulier, par une résurgence des tératologies totalitaires. Nous leur tournons le dos. Ce ne sont plus les délires du pouvoir que nous avons à craindre, ce sont les ravages de l'impouvoir. Cette divergence des trajectoires associées à la parenté des ressorts est ce qui fait le prix et la portée de la comparaison. Elle n'invite pas à raisonner servilement par analogie, elle appelle au contraire une mesure méthodique de la différence du présent à la lumière de ce qui le rattache au passé. Il ne s'agit pas de livrer la guerre d'avant, mais de se préparer à la nouvelle avec une conscience affermie de la spécificité de son théâtre et de ses enjeux. Dans ses limites, la comparaison fournit l'instrument d'un inappréciable recul par rapport à l'actualité et à la confusion myope de son déchiffrement au jour le jour. Elle indique l'échelle de temps à laquelle il convient de raisonner. Elle donne l'idée du genre de processus à l'œuvre. Elle met efficacement en garde contre les conclusions précipitées, la tentation constante et l'errance constitutive du sentiment de devenir. Dans le domaine de l'action historique, il n'y a des néophytes perpétuels, il n'y a que des néophytes perpétuels auxquels les leçons apprises de la veille ne servent pas à grand-chose face à l'inédit du lendemain. Il ne nous est pas interdit de nous aguerrir, toutefois, en devenant des néophytes dûment avertis de l'être. L'opposition de signes entre le moment 1900 et le moment 2000 renvoie, naturellement, au chemin parcouru entre les deux dates. Elle s'explique en particulier par la distance franchie en matière de sortie de la religion. 1900 marque sans doute le moment décisif du basculement vers l'autonomie, vers l'affirmation de sa conscience et vers le déploiement en grand de ses vecteurs pratiques. Mais en même temps que cette percée s'opère, la forme religieuse conserve des bases solides. Ce n'est pas seulement que la foi maintient son emprise sur de larges masses et que les églises restent de puissantes autorités sociales. Avec ce que cela implique d'exacerbation des conflits entre laïcs et cléricaux sur tous les fronts, c'est que l'antique union sacrale continue d'empreindre le mécanisme collectif. Elle imprègne les rapports de subordination, elle commande le sentiment d'appartenance, elle garde le lien de tradition avec le passé. C'est qu'elle demeure un cadre contraignant pour la pensée, y compris avec ceux qui veulent la République de la raison ou le socialisme sans Dieu. Elle constitue la référence omniprésente en regard de laquelle les divisions du présent ressortent dans leur relief anxiogène. Mieux, consciemment chez les uns, inconsciemment chez les autres, elle apporte le modèle d'une reconstruction possible qui ramènerait ou qui produirait la prise sur soi en train de disparaître. C'est directement à cette prégnance substantielle du religieux qu'il faut rapporter les espoirs d'une restauration ou d'une instauration d'une société pleinement unie avec elle-même, qui fleurisse avec l'irruption de l'autonomie démocratique, en riposte aux multiples partages par lesquels elle se solde. C'est dans le substrat de cette religiosité primordial que s'enracinent les fantasmagories totalitaires, sans en accepter les plus expressément anti-religieuses. C'est précisément ce substrat qui s'est évanoui. On est à mille lieues, en 2000, de cette insistance et du climat à la fois conflictuel et fidéiste qu'elle entretenait. Le travail de concrétisation de l'autonomie, tel que ses instruments se démultiplient autour de 1900, a porté ses fruits. Il a produit dans la durée une accumulation de la puissance collective d'autoconstitution et d'autodéfinition qui a rendu possible à son tour une nouvelle accélération du processus de sortie de la religion, celle qu'il nous a été donné d'observer durant le dernier tiers du XXe siècle. Or, c'est l'émancipation de la forme religieuse qui a été la caractéristique centrale de cet ultime bond en avant de l'autonomisation. D'où le fait qu'il se soit très peu vu. Il s'est joué dans les profondeurs bien plus qu'en surface. Il ne s'est pas manifesté dans de grandes batailles de croyances, comme son homologue d'un siècle auparavant. Il n'a donné lieu qu'à des victoires sans combat sur des armées qui se sont désagrégées d'elles-mêmes. Il s'est essentiellement traduit par la dissolution de ce schème de l'union sacrale qui continuait de hanter les esprits et d'informer les rapports sociaux. C'est en liquidant cet invisible vestige de la structuration hétéronome qu'il s'est montré d'une efficacité si prodigieuse. Il a ôté à la foi ancienne l'ancrage qui lui procurait une sorte de plausibilité collective jusqu'au milieu d'une société de libre discussion. C'est l'obsédante présence du fantôme immémorial de l'un, de toute chose, dans l'ensemble des liens entre les êtres qui entretenait l'attachement à une religion de l'ordre divin. En se dissipant, elle a entraîné la débandade des derniers carrés de la religiosité traditionnelle et la conversion des croyants à la théologie de la démocratie. Dieu ne donne ni leur loi ni leur pouvoir à ses créatures. Il leur en laisse la définition. La dispersion des vieux croyants n'a eu d'égal que l'implosion du parti de la Révolution. Il a vu s'évanouir sous lui ce qui soutenait son dessein d'une ressaisie de la totalité collective et d'une conjonction avec sa science d'elle-même. Mais l'effet le plus déterminant de cette disparition a été sur les rapports sociaux eux-mêmes. La détraditionnalisation, désubordination, désincorporation, désinstitutionnalisation, désymbolisation. L'évidement sur deux ou trois décennies a été massif et spectaculaire. À peu près plus rien ne subsiste de ce qui soutenait un lien de filiation explicite et vivant avec le passé, de ce qui portait les expressions d'une autorité à laquelle ses subordonnés pouvaient s'identifier, ou de ce qui prêtait sens à des appartenances pour les individus en leur permettant de s'y reconnaître. C'est pratiquement volatilisé, en bref, tout ce qui maintenait l'expérience des acteurs sociaux dans l'orbite tangible d'une cohérence supérieure. Il ne reste plus pour les tenir ensemble que l'arbitrage du droit et la régulation automatique d'un ensemble ouvert. C'est pourquoi nous n'avons vraiment plus rien à craindre des idéologies du pouvoir total. Elles se sont évaporées dans l'inimaginable. Nous avons tout lieu de redouter, en revanche, les conséquences de cette dessaisie radicale qui tend à nous enlever quelque prise que ce soit sur une communauté politique qui tente, pour sa part, à devenir infigurable comme telle en sa totalité. Encore le danger lui-même n'est-il pas représentable, faute d'un terme de comparaison. Sa perception obscure ne parvient pas spontanément à l'expression. Il n'empêche que si le contraste des ambiances est saisissant et si la façon de se représenter des phénomènes est éloignée à souhait, le problème est structurellement du même ordre, à un siècle de distance. En 1900, comme en 2000, on se trouve devant un brutal approfondissement simultané des trois composantes de l'autonomie qui empêche de les tenir ensemble, qui rend leur travail conjoint immaîtrisable et qui interdit en pratique l'autogouvernement promis en principe par l'autonomie. En 1900, la question de l'articulation de l'orientation historique, de la forme politique et de la logique de l'individualisme juridique, sur la base de leur expérience indépendante et leur consistance irréductible, arrive pour la première fois à l'ordre du jour. C'est l'originalité du moment. Il s'agit de les associer, de les lier de manière que leur concert soit gouvernable, tout en faisant pleinement droit à chacune, alors que leur pente à chacune est de s'imposer comme une clé exhaustive et exclusive de l'ensemble. Cette synthèse d'un genre très particulier, puisqu'elle suppose la conversion des éléments qu'elle unit, la conservation des éléments qu'elle unit, est proprement ce qui va constituer l'âme de la démocratie libérale, c'est-à-dire du régime en lequel s'opère l'intrication de la démocratie comme dynamique sociale et de la démocratie comme fonctionnement politique. Nous sommes là exactement au point où il nous est demandé de nous porter au-delà de la problématique tocquevillienne. Le génie de Tocqueville avait été de comprendre dans les années 1830 que la démocratie, loin de se réduire à un régime selon les typologies anciennes, correspondait à un état social. En regard de l'inextricable mélange d'anciens et de nouveaux offert par les monarchies limitées à l'anglaise ou à la française, il avait su identifier, grâce au laboratoire de la jeune République américaine, la force irrésistible de ce fait séminal capable d'engendrer un monde, l'égalité des conditions. Sans doute en avait-il lucidement discerné les conséquences politiques, une souveraineté du peuple destinée à s'étendre jusqu'à ses dernières conséquences. Sauf que cela ne suffit pas. Car le propos, en sa généralité, ne dit pas grand-chose des voies que va emprunter l'exercice de cette souveraineté, non plus que des motifs auxquels il va répondre. Or, cette définition va être justement tout le problème du moment 1900. Elle va se révéler rigoureusement contrainte. Elle va ramener la question de la démocratie comme régime, écartée à juste titre au profit de la marche comme société, au temps où elle avait encore à se frayer un chemin au milieu des ruines de l'univers aristocratique, mais impossible à contourner dès lors que l'égalité des conditions l'a irrévocablement emportée et qu'elle est en position de modeler complètement un ordre collectif à son image. Ce qui apparaît à ce moment-là, en fait, c'est que l'organisation politique qui va lui procurer sa traduction est loin de se réduire à un simple prolongement ou à une vague dérivation du principe égalitaire. Elle obéit à de puissantes et strictes nécessités d'une autre nature, qui renvoie d'abord à la consistance de la forme politique, mais qui résulte également de l'intégration d'autres facteurs et dimensions que la seule égalité des personnes. C'est dans le dévoilement de cette multiplicité interactive, avec son lot de surprises et ses contradictions en tous sens, que va consister l'épisode de formation de la démocratie libérale. Il commence avec l'émergence au grand jour de la diversité de composantes qu'il s'agit de nouer en faisceau. Il va falloir mesurer, pour commencer, que l'État social démocratique comporte d'autres axes et données lourdes que le travail, du sentiment, du semblable entre les êtres, si déterminant qu'il soit. Cette égalité elle-même, au demeurant, est enchâssée à l'intérieur d'un individualisme qui la déborde à la fois par ses incidences sociologiques et par ses expressions juridiques. Qui plus est, la société démocratique, au-delà de la dynamique inhérente aux relations entre ses membres, est en général une société qui se produit et se construit délibérément dans le temps. C'est sous cet aspect de société de l'histoire qu'elle rencontre un problème béant de gouvernement. Car se projeter dans le devenir, c'est aussi courir le risque de s'y perdre. Comment commander à ce qui, par nature, ce qui est par nature l'œuvre d'une imprévisible liberté? En réalité, on le verra, c'est là l'interrogation motrice déclenchante prioritaire de 1900. C'est autour d'elle que gravitent les autres. Car il y en a d'autres. Donner à la société démocratique le système politique dont elle a besoin, dont en vérité sa capacité de mouvement est indissociable, c'est devoir ajuster à ses réquisitions un cadre bien moins que malléable. La puissance démocratique se coule dans les frontières de la nation. Or, celle-ci comporte ses contraintes propres, nullement faciles à domestiquer. Elle a, en tant que puissance, son instrument dans l'État, dont la définition n'a cessé d'accompagner la clarification de ses principes. Elle ne peut s'en passer, mais elle a de la peine à se le soumettre. C'est l'ensemble de ses réquisitions qu'il s'agit de dominer. On voit que, pour beaucoup, il n'y ait que le mot de révolution pour paraître à la hauteur de l'entreprise. Toutes ces tâches n'en font qu'une, on le sent. Encore reste-t-il à trouver les moyens de cette unité. Il y faudra plus d'un demi-siècle. C'est seulement dans les années 50-60 que l'ajustement entre la société et la politique démocratique s'opérera de façon à peu près adéquate et que la formule complète de la démocratie libérale réussira à se dessiner et à s'affermir. Au total, les premières manifestations de la crise du libéralisme à la fin des années 1870 jusqu'à la vague de démocratisation du début des années 1970, attestant de la consolidation accomplie. Il aura fallu près d'un siècle pour que s'effectue l'intime conjonction du gouvernement du devenir, de la maîtrise du politique et de la reconnaissance de l'individu. Nous sommes sous le coup, en 2000, de la dislocation de cette synthèse si péniblement acquise. La vague de démocratisation a changé la démocratie en donnant de nouvelles proportions à chacune de ses branches et en redéfinissant entièrement ses priorités. Elle a, ce faisant, détruit l'équilibre qui s'était lentement construit entre la gestion de l'historicité, les ressources du politique et les exigences du droit. De nouveau, nous sommes partagés entre des injonctions contradictoires et poussés en tous sens par des tendances incompatibles. De nouveau, la formule globale de notre monde nous échappe, et d'une manière d'autant plus troublante que les clés de notre destin nous ont été solennellement remises et qu'officiellement, nous jouissons de la maîtrise de nous-mêmes. La synthèse est à refaire. Il va falloir recoudre ces membres redevenus épars et discordants. Nous ne sommes plus au commencement. Nous vivons sur les acquis de la démocratie libérale qui, même désarticulée, demeure un système irréversiblement installé. Il ne s'agit pas de la reconstruire à la base, ni même de la refonder, pour reprendre un verbe qui ne hante pas les esprits par hasard aujourd'hui. Il s'agit de lui procurer une forme supérieure en reconstruisant l'équilibre interne qu'appelle le développement de ses composantes. Le discernement de l'inédit des facteurs est le plus important en la circonstance, que le nécessaire retour aux principes évoqués par la refondation. L'entreprise ne s'annonce pas moins difficile pour autant que ne le fut la construction initiale, car l'acquis est un frein autant qu'un support, et les victoires du passé préparent mal aux batailles du futur. Les deux cycles. L'idée de cette série de livres est d'éclairer ce nouveau cycle de déconstruction-reconstruction dans lequel nous sommes engagés à la lumière du cycle précédent. Ce premier siècle de la démocratie libérale, il est possible de tirer à la fois une analyse plus précise de sa nature, une appréciation plus juste de la situation où elle se trouve, mais aussi une notion mieux motivée des évolutions dont elle est susceptible et des tâches qu'elle requiert. Tel est le pari de ces pages. Je m'efforcerai donc, dans un premier temps, de retracer le cycle de formation de notre régime mixte. j'essaierai de montrer comment la crise du libéralisme qui se déclare vers 1880 est au plus profond une crise politique de l'historicité, une crise de la gouvernabilité du devenir. Ce qui s'ouvre avec elle, c'est le problème de l'immaîtrisabilité de l'histoire dont nous sommes les auteurs. L'humanité s'y construit, mais au péril de s'y découvrir étrangère à elle-même. Comment se réapproprier cette œuvre de la liberté collective contre la dépossession qui la menace? C'est par rapport à ce problème, et de l'intérieur de la quête d'une maîtrise du devenir, que s'est peu à peu trouvée, et au milieu de quelles tourmentes traversent ces tentations, la combinaison efficace de liberté libérale et de puissance démocratique qui nous est familière. Elle recouvre en réalité une intrication subtile entre l'orientation sociale vers le changement, les ressources de l'englobant politique et la logique de l'individu. C'est cette conjonction sans confusion qui achève de se consolider dans l'euphorie des Trente Glorieuses. En fonction de ce dernier parcours, de ce premier parcours, je m'attacherai, dans un second temps, à suivre la dissociation de cette synthèse à partir de la crise sans nom des années 1970. On verra comment la réussite même de cette composition des forces a créé les conditions d'une relance du processus vers l'avant qui a complètement bouleversé le paysage, renversé les déséquilibres établis et amené la confusion où nous débattons. Nous avons changé de siècle, basculé dans une autre époque, nous sommes embarqués dans un nouveau cycle où le travail d'articulation est entièrement à reprendre. L'accélération du devenir a entraîné l'effacement de l'avenir, de telle sorte que l'historicité a disparu du champ de vision collectif dans le temps où sa portée se démultipliait. La maturation de l'englobant politique a conduit à son enfouissement dans l'implicite au moment où il se faisait le socle exclusif de l'unité collective. À la faveur de cette double éclipse et de sa propre montée en puissance, c'est le principe d'individualité qui est passé au premier rang. La logique du droit règne seule en se présentant comme la réponse à tout. On en a dit les effets, on aura à les réexaminer plus en détail. Un pouvoir sans contenu s'auto-célébrant dans le vide. Nous ne savons pas ce que nous faisons, ni où nous allons, nous ignorons ce qui nous permet d'exister, mais nous sommes sûrs de ce qui nous fonde à nous gouverner et nous ne cessons de nous congratuler de cette découverte. Il est possible de parler d'une crise politique du droit pour définir cette situation et par symétrie avec la crise inaugurale, d'où une crise de gouvernabilité de l'univers des individualités. Une crise très différente de la précédente est redoutable dans la pureté de ses intentions, puisqu'il est de sa nature de se méconnaître. L'impuissance face à l'histoire se savait avec les énormes dangers de l'aspiration à la puissance qu'elle provoquait. L'impotence qui naît du droit s'ignore. Elle a beau ne cultiver que l'espérance innocente du bien, elle comporte l'immense danger d'endormir et d'aveugler. C'est pourtant de l'intérieur de cette primauté du droit, qui tend à se fermer sur elle-même, qu'il va s'agir de réintégrer l'objectif du gouvernement du devenir et des moyens du politique. C'est sous son égide que va devoir s'opérer la reconstruction d'une mixité équilibrée entre la démocratie et le libéralisme, au-delà de l'actuelle dilution de la démocratie dans le libéralisme. Car telle est l'entreprise qui paraît s'ouvrir devant nous, à mesure que se confirme l'impasse des droits de l'homme et de la sacralisation du singulier. Une impasse à bien des égards comparable à l'ornière parlementaire où s'enlisait la démocratie libérale balbutiante de 1900. La tâche ne s'annonce pas simple, on serait même tenté de la juger impossible. Mais c'est en regard de ces suggestions du contexte immédiat que les leçons du cycle précédent se révèlent inappréciables. Elles mettent en garde contre la myopie du court terme. Elles invitent à raisonner dans la perspective d'un processus d'ampleur séculaire. Plus précieux encore, elles appellent à l'attention sur les germes du futur cachés dans la confusion du présent, si frappant rétrospectivement lorsqu'on se reporte au moment 1900, où l'on voit les solutions s'esquisser en même temps que le problème se déploie. Qu'il se soit trouvé alors des esprits aigus pour entrevoir les chemins qu'allait effectivement prendre la maîtrise raisonnée de l'apparemment immaîtrisable, à distance des issues délirantes, nous ouvre un espoir et nous crée un devoir de tenter de démêler, semblablement, les voies du gouvernement de l'ingouvernable. L'expérience passée nous donne des motifs de supposer que le mouvement de dessaisie qui nous emporte comporte aussi des préfigurations ou des amorces d'une ressaisie du collectif en sa cohérence. À nous de savoir les détecter dans l'inconnu d'une configuration sans commune mesure avec la configuration antérieure. Ce travail de déchiffrement n'autorise aucune prédiction. Il ne permet en rien d'anticiper sur la façon dont ces virtualités seront susceptibles ou non de s'actualiser. Mais il n'est peut-être pas sans livrer quelques indications sur les choix qui nous attendent. Si nous sommes fous voués à ignorer comment l'histoire se fera, nous pouvons un peu savoir de quoi elle sera faite. L'élucidation de ces contre-mouvements embryonnaires nous fournit un irremplaçable moyen, en d'autres termes, de nous orienter au présent. Car cet avenir vers lequel nous allons, c'est nous qui le ferons. C'est de nous, en tout cas, qu'il sortira. Nous ne pouvons pas ne pas le vouloir, même si nous savons qu'il est destiné à nous prendre en défaut. Autant ancrer cette volonté dans la mesure du possible et dans le discernement de ce qui est à portée de notre pouvoir. Encore une fois, c'est l'effectuation de l'histoire qui nous échappe, bien plus que son sens ou que les enjeux dont elle est chargée. Il se peut que les démocraties aient changé d'orientation sans retour et qu'aucune des potentialités de reconstruction qui se dessinent au sein de leur marasme ne soit appelée, finalement, à se réaliser. Il n'empêche que c'est autour de ce choix que va se tourner le cours de notre avenir et que c'est ce combat qui en fera l'âme, quelle que doive être son issue. Qu'il nous soit au moins donné d'y participer en connaissance de cause. La difficulté d'une telle démarche d'éclaircissement réside, on le conçoit, dans le caractère global qu'elle revêt nécessairement. Non seulement elle doit embrasser une large tranche d'histoire, mais elle suppose de suivre de front la marche de paramètres qui viennent de loin, de bien plus loin que le XXe siècle, et qui pèsent chacun très lourd. Il ne s'agit pas moins que de débrouiller les rapports entre politique, droit et histoire et leur évolution sur un grand siècle, ce qui veut dire pouvoir se reposer sur une notion suffisamment établie de leur trajectoire antérieure. C'est la condition pour commencer à comprendre quelque chose à l'histoire chaotique que nous venons de traverser et pour s'y retrouver face à la conjoncture énigmatique où elle nous a menés. Comme l'objectif premier ne peut être que de s'orienter au milieu de ces ténèbres labyrinthiques, j'ai résolument privilégié la recherche d'une vue d'ensemble, quitte à ne pas reculer devant la schématisation à outrance. L'analyse avance sur la ligne de crête où le paysage est lisible en son entier. Elle renvoie à des approfondissements ultérieurs des investigations régionales nécessaires pour étayer les propositions générales avancées ici. Une dernière précision à propos du théâtre où campe l'analyse. Il est naturellement pour l'essentiel celui du berceau des démocraties libérales dans leur parlante diversité d'expériences, à savoir l'Europe de l'Ouest, l'Europe des déchirements tragiques du premier XXe siècle, l'Europe heureuse de l'unification du second XXe siècle. Mais comme il a été fait allusion, le parcours de la démocratie libérale ne peut bien se comprendre sans la considération de la branche sœur qui s'est développée de l'autre côté de l'Atlantique et qui, à compter des années 1880 précisément, entre en consonance du sein de sa divergence native avec les démocraties du vieux continent. Aussi s'efforcera-t-on de garder un œil en permanence sur l'exemple américain et d'exploiter les parallèles qui l'autorisent. Rien de plus expressif que les convergences à distance. Le parallèle acquiert aujourd'hui un relief crucial avec la divergence qui semble devoir s'installer entre une nation américaine fière de sa puissance et sûre de son rôle et une Europe des nations qui tourne le dos à la puissance et s'interdit les moyens du rôle auquel elle aspire. L'universalisme dont elle rêve, en expiation des horreurs du passé, l'empêche de se poser comme nation, tout en dissolvant les nations dont elle est composée. C'est plus que jamais le moment de scruter le parallèle et de soupeser ses évolutions rivales. Le sort de la démocratie libérale du XXIe siècle est suspendu à ce qui se joue et se dispute dans cette opposition des semblables.